Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission dominicale qui met en avant le savoir-faire français, la tradition, les innovations, tout ce qui fait la richesse de la France. Mais avant de commencer cette émission, bon 15 août à toutes les Maries. Bon 15 août, Maria Assunta, ma petite maman, j'espère qu'il m'écoute. Allez, au programme du jour, on parlera de tourisme connecté. Ceux qui ont opté pour le camping cet été, vous avez peut-être constaté que vos serrures d'entrée ont changé. Dans beaucoup de campings, il y a de plus en plus de lieux de vacances qui optent pour un système de clés sans contact ou presque. On ira justement du côté de Montpellier rencontrer cette entreprise qui a développé ces serrures nouvelle génération. Mais tout de suite, une autre belle innovation française qui pourrait améliorer votre confort en terrasse ou dans le jardin au moment de l'apéritif. Il y en a toujours un qui s'invite alors qu'il n'est pas désiré. Un indice en musique.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Moustique mon vieux, tu vois trop petit, tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie.
Et nous sommes en ligne avec Pierre Bellagambi de chez Kista. Bonjour Pierre Bellagambi.
Bonjour.
Alors, quelle bonne idée de s'attaquer aux moustiques. Alors là, je crois que vous allez intéresser de nombreux auditeurs. Je pense notamment ceux qui sont en Camargue, qui vivent près de Marécage, de Marécage. Alors là, je ne parle que de la France, mais aussi l'étranger. Expliquez-nous en quoi vos pièges à moustiques sont révolutionnaires.
Alors, donc, ils sont révolutionnaires d'une part parce que ils sont en capacité de venir faire chuter des taux de piqûres de l'ordre de 88% sur un rayon de 60 mètres autour de chaque piège. C'est-à-dire qu'on va en gros passer de 15 piqûres toutes les 10 minutes à une toutes les 10 minutes en zone infestée comme la Camargue par exemple où nous avons développé notre produit. Ils sont révolutionnaires aussi parce que ils ont cette action sur le moustique tout en préservant l'environnement.
Et comment ça fonctionne alors justement concrètement? Ben oui. Comment vous faites pour réduire justement la population de moustiques?
Eh bien, on y parvient parce que l'appareil va simuler la respiration d'un être humain pour pouvoir attirer la femelle moustique qui a besoin de sang pour porter à maturation ses œufs.
C'est une sorte de leurre, on essaye de...
C'est ça, on l'appâte, on lui fait croire que le piège au final est un mammifère idéal, une proie idéale, immobile dans le jardin, qui respire et qui attend qu'une chose, la piqûre du moustique. Et lorsqu'elle est à proximité, on capture cette femelle qui est en capacité de pondre jusqu'à 200 œufs toutes les 48 heures selon certaines espèces. Ce qui veut dire qu'on va faire chuter le nombre d'œufs pondus autour de la machine et que petit à petit, il y aura moins d'œufs pondus, moins de moustiques et donc moins de piqûres.
Parce qu'on dit souvent que tous les moustiques ne piquent pas, alors, ne transportent pas la maladie, le paludisme. Donc c'est surtout les femelles, essentiellement?
Alors, oui, effectivement. Donc il y a en gros 3200 espèces de moustiques recensées sur la planète. Il y a des espèces qui vont véhiculer certaines maladies ou pas. Par exemple, le paludisme, ce seront des espèces anophèles, du genre anophèles. Le Zika, le chikungunya seront véhiculés par les moustiques tigres qu'on connaît de plus en plus dans nos villes, qu'on appelle aussi Aedes albopictus. Voilà, il y aura une trentaine d'espèces comme ça qui seront en capacité de véhiculer malheureusement des maladies mortelles. C'est d'ailleurs la plus forte
cause de mortalité. C'est la première cause de mortalité en Afrique, le paludisme, oui.
Non, même pas qu'en Afrique, hein, sur le monde. Aujourd'hui, le moustique tue 800 000 personnes chaque année. Malheureusement, effectivement, 90% des morts concernent des enfants entre 0 et 5
400
ans.
400 000 en 2019, j'ai lu ça récemment dans un papier de l'OMS, 400 000 en 2019, donc les deux tiers des enfants ont moins de 5 ans.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et là, c'est pour le continent africain. Après, vous avez les autres maladies qu'ils véhiculent, hein, le Zika, dengue.
La dengue,
et,
oui.
Ouais, et donc là, vous n'êtes pas, évidemment, c'est pas parce que vous êtes contaminé par la dengue que vous allez mourir, heureusement, mais il y a de lourdes séquelles liées à la contraction de cette maladie. Au-delà de la fièvre et de l'alitement, il y a les douleurs que cela engendre.
Oui, donc au-delà de l'inconfort, hein, comme on le disait tout à l'heure, sur un ton un peu plus souriant, il y a aussi un sérieux problème de santé publique. Et justement, les derniers chiffres de l'OMS s'accompagnaient d'un article qui rappelait que le traitement, malheureusement, contre le palu est de moins en moins efficace. Donc il faut trouver le moyen de ne pas se faire piquer, justement. Alors, vous, avec comment le moustique repère sa proie? J'ai lu qu'il peut repérer une proie jusqu'à 60 mètres.
Effectivement, oui. Genre, même parfois jusqu'à 90 mètres selon certaines espèces. Donc, ça va se passer en deux temps. Le premier temps, pour la femelle moustique, elle va détecter les molécules de dioxyde de carbone que l'être humain ou le mammifère va produire lors de sa respiration, parce qu'elle sait que s'il y a une production de CO2 et de respiration, il y a de facto du sang chaud. Tous les mammifères respirent. Mmh. Instinctivement, elle le sait. Donc là, elle est dotée de capteurs au niveau de son système, au niveau des synapses qu'elle embarque dans son petit corps. Donc ça va lui permettre de se diriger vers la proie. Et puis ensuite, elle a d'autres capteurs qui prendront le relais pour détecter la présence de molécules que vous allez produire, des acides, notamment de l'acide lactique qu'on va produire lorsqu'on fait beaucoup de sport. Mais ça, pareil, c'est un réflexe dont disposent tous les mammifères, et elle le sait. Et donc nous, la machine, elle va venir proposer ce cocktail olfactif, cibler l'attractivité auprès d'une bouche d'aspiration. Et dès que la femelle sera à côté de la bouche d'aspiration, elle sera retenue, prise au piège dans un filet, parce que aspirer est impossibilité de sortir.
Alors aujourd'hui, vos clients, ce sont donc des campings, des hôtels. Est-ce que j'avais lu que 157 bornes avaient été réparties dans la commune de Hyères, donc ça montre vraiment l'intérêt pour cette innovation française. On est fiers de ça. Est-ce que les particuliers peuvent avoir cette borne anti-moustique chez eux?
Oui, bien sûr. Alors, petit rectificatif, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on mette à jour les chiffres. Hier, il y a plus de 420 pièges aujourd'hui.
Ah, oula. Donc ça montre que c'est efficace. Ils sont partis de 157 à 400 pièges. Ils continuent justement de se répartir dans la commune de Hyères.
Tout à fait, oui. On a bientôt presque 70 collectivités françaises qui sont équipées. On a des collectivités étrangères aussi, des États. Mais on a beaucoup de particuliers. 57% de notre chiffre d'affaires est généré par les particuliers qui souhaitent protéger leur espace privatif des piqûres de moustiques sans utiliser de produits dangereux que pourraient être pesticides ou autres molécules dangereuses pour leur santé.
Ça coûte combien, justement?
Alors,
une borne anti-moustique?
Alors, l'investissement de la machine va représenter une somme aux alentours de 1 000 euros. Et ensuite, vous allez devoir... pour pouvoir simuler la respiration humaine, lui ajouter des consommables qui, eux, vont osciller entre 80 euros et 130 euros. Ça dépend du service que vous allez choisir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de venir chez vous, de vous faire l'intégralité de la maintenance des machines. Et ce budget d'une centaine d'euros par mois, au final, en moyenne, est évidemment à considérer uniquement pendant la période...
Oui, estivale, c'est-à-dire le printemps, l'été, quand on est, quand on veut vraiment profiter des beaux jours, en gros. Quand on a envie de profiter de sa terrasse. Comment vous est venue cette idée?
Alors, nous, je dis nous parce que j'ai créé l'entreprise avec mon associé.
Oui,
on est un binôme, mon associé Simon Lillamant. Alors nous, nous sommes nés à l'hôpital d'Arles et nous sommes du coup nés avec les moustiques. On a grandi dans la zone.
Toute votre vie, vous avez dit, mais comment on va faire pour se débarrasser de ces moustiques?
Oui, c'est ça. C'est sûr que les vacances perturbées par les piqûres de moustiques et autres. Et au final, la véritable réflexion sur notre entreprise, on l'a quand on commence à découvrir l'importance des dégâts générés par les larvicides et autres produits sur la faune insectivore, parce qu'ils étaient employés sur le territoire camarguais. Et on s'est dit qu'on pouvait tout de même faire un petit peu mieux d'un point de vue environnemental, voire même d'un point de vue performance. Et c'est là que l'idée du piège est apparue, parce que il nous permettait de mettre en place une solution à proximité des zones de vie de l'être humain, tout en préservant les zones de vie non fréquentées par l'être humain, mais pourquoi pas fréquentées par le moustique et l'intégralité de la chaîne alimentaire.
Ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce projet qui est breveté, hein?
Il est breveté, oui. Oui, bien sûr, il est breveté. On dispose de plusieurs brevets qu'on défend en France et à l'international. Nous, on a travaillé sur le projet depuis 2012 avec Simon. On a créé l'entreprise en 2014 quand on a été obligé de déposer notre premier brevet. Ce qui veut dire qu'il y a eu 2 ans de travail, pas gratuit, mais si, quasiment. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait ça en dehors de nos propres activités professionnelles avec Simon. Moi, j'avais un travail qui m'obligeait à travailler de 4h du matin jusqu'à 13h à peu près. Et l'après-midi, c'était Kista. Et Simon, c'était l'inverse. Son travail lui permettait de bosser sur Kista le matin et l'après-midi, il était sur autre chose.
Je rappelle que Kista, c'est le nom de l'entreprise.
Oui, effectivement, Kista, c'est le nom de l'entreprise.
Vous êtes tous les deux de formation scientifique, pas du tout ? Ingénieur ?
Alors, Simon est ingénieur. Moi, je viens de l'économie, mais j'ai travaillé lors de ma carrière dans une entreprise où les insectes nuisibles étaient largement considérés parce que c'était de l'agriculture.
Ah oui.
On produisait des plants maraîchers et un jour est apparue la lutte intégrée, c'est-à-dire l'utilisation d'insectes amis pour lutter contre les insectes ennemis et pour bien déployer et commercialiser ce produit, je devais bien comprendre le rythme de mes insectes amis pour bien les vendre. Et puis de là est venue une facilité, on va dire, de compréhension sur l'insecte.
Et de ce beau binôme est né donc Kista, cette borne anti-moustique complètement révolutionnaire. Merci beaucoup Pierre Bellagambi, on vous souhaite aussi beaucoup de succès. Et c'est déjà parti avec justement ce produit français qui s'exporte extrêmement bien. Merci Pierre Bellagambi, je vous souhaite un bon dimanche, un bon 15 août.
Merci à vous, bon dimanche à vous aussi. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant et juste après, on ira faire un tour du côté des campings pour découvrir une autre innovation, un système de clés sans contact. A tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, notre spécialité où on met en avant justement les innovations qui vont améliorer vos vacances. Alors pour ceux qui ont fait l'option du camping cette année, vous avez peut-être remarqué, pas dans tous, hein, mais dans beaucoup de campings, une nouvelle innovation, un système de clés sans contact, une serrure qui vous permet de verrouiller et déverrouiller les équipements de loisirs sans contact et ce, avec des clés. On va en parler tout de suite avec notre invité.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Gérard Tremblay, président directeur général et cofondateur de Osmosis. Bonjour Gérard Tremblay.
Bonjour à tout le monde.
Alors vous êtes le spécialiste des vacances en mode connecté, hein, la société Osmosis basée à Clapiers, c'est bien ça, dans la région de Montpellier ?
C'est bien ça.
Donc vous apportez justement des solutions connectées aux propriétaires de camping, aux hôtels. Et alors tout ça est venu un petit peu avec ces contraintes sanitaires qui ont été imposées. Et vous avez développé donc l'OsmoKey, une clé sans contact qui est de plus en plus présente dans les campings et les lieux de vacances. Alors, c'est-à-dire, comment ça fonctionne ? À quoi ça ressemble cette clé sans contact ?
Alors, cette clé sans contact, ça ressemble à un bracelet. C'est-à-dire que vous avez, au lieu de donner une clé que vous allez vous passer dans la famille, aux enfants, etc., la planquer pour pouvoir l'avoir quelque part quand quelqu'un revient tout seul, vous avez ce bracelet que tout le monde dans la famille a. Et ce bracelet vous permet d'ouvrir votre porte du mobilhome, par exemple, ou du chalet.
Mais ça peut permettre d'ouvrir uniquement une porte ou bien plusieurs portes ? Est-ce qu'on peut par exemple programmer finalement l'entrée de plusieurs lieux ?
Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on donne des droits, c'est-à-dire en fonction du type de location que vous avez, etc., de vacances, vous avez la possibilité, et c'est le cas par exemple sur le camping Sylvamar à La Benne, où avec ce même bracelet, on peut aller à la piscine, on peut avoir des lieux dans lesquels on est autorisé à aller, absolument.
Alors, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas le perdre. Si on perd son bracelet, là, on donne son
passe-partout. Si on perd son bracelet, il suffit d'aller à l'accueil et simplement, ils annulent le bracelet précédent et ils remettent un nouveau bracelet. Ce n'est pas grave du tout.
Alors, comment vous expliquez le succès de OsmoKey ? Ça rassure les clients pendant cette crise sanitaire ?
C'est déjà plus simple parce que lorsque vous arrivez, quelquefois, vous tapez 7-8 heures de route et vous arrivez tard, l'accueil est fermé.
Oh là là, oui.
Et là,
où il y a la queue, ça arrive aussi.
À l'accueil le samedi. Donc là, simplement, vous recevez un code parce que nos serrures connectées, qui sont une innovation française, hein, c'est totalement développé par Osmosis. On a quand même 20% de nos effectifs qui sont en recherche et développement à Osmosis. Eh bien, cette serrure connectée qu'on a entièrement développée, il y a aussi la possibilité de faire un code en plus d'utiliser le bracelet. Donc, on arrive avec le code directement à son mobilhome. On rentre le code. On rentre dans son mobilhome à minuit ou à 1h du matin, à arrivée tardive. Et là, le lendemain, on va chercher son bracelet. Ouais. C'est beaucoup plus simple.
Alors, est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, elle a justement fait évoluer notre façon de vivre dans un lieu de vacances ?
Clairement, c'est la digitalisation des campings et des villages vacances, c'est vraiment quelque chose qui est à l'ordre du jour. Parce qu'on voit, avec ce même bracelet, je vais pouvoir même payer. On a la solution Osmopay. Donc, en fait, on met de l'argent, j'allais dire de l'argent réel, mais sur ce bracelet, 100 ou 200 euros.
On recharge, en fait.
On recharge. Je peux, pour mon fils, lui mettre 50 euros, voilà, qu'il va pouvoir consommer comme il veut. Et là, je n'ai pas besoin de me promener avec ma carte bleue, etc., avec des espèces, pour payer dans l'ensemble des commerces du centre de vacances.
Mais au-delà du bracelet, est-ce qu'on peut dire, vous, parce qu'avec Osmosis, hein, vous êtes vraiment, vous avez investi ce terrain de la transformation numérique des campings et des résidences de vacances en France et en Europe. Va ressembler justement le camping de demain? À quoi vont ressembler les vacances de demain?
Alors, les vacances de demain vont être beaucoup simplifiées, en fait, pour à la fois le gestionnaire du centre de vacances. Ça lui simplifie drôlement la vie, parce qu'avant, par exemple, pour les clés, il fallait qu'il ait un tableau de clés. S'il a 500 emplacements, il y a 500 clés qui sont accrochées à l'écran. Donc, ça, c'est drôlement simplifié. Et pour le vacancier, il va pouvoir gérer facilement les choses, en pouvant réserver, quand on est dans son mobilhome, les activités, en pouvant... Vraiment, la simplification se fait grâce à son téléphone portable sur lequel il va pouvoir faire plein de choses, regarder ce qu'il a dépensé, regarder. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple.
Vous voulez dire qu'en fait, il y a le bracelet connecté, mais vous développez aussi des applications qui permettent de rassembler justement tout ce que...
Lorsqu'on a la solution Osmopay qui est implantée sur un site, avec la possibilité de payer avec le bracelet, le vacancier va pouvoir aller voir sur son smartphone ce qu'il a dépensé, par exemple, ce que son fils a dépensé, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il faut recharger, etc. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple.
Ça permet de ne pas avoir la mauvaise surprise quand on rend des vacances et qu'on fait les comptes. Ah mince, on a dépassé le budget des vacances.
Totalement, oui, tout à fait.
Comment il évolue ce tourisme à l'étranger? Si on prend le cas de l'Europe, par exemple, on est sur la même lignée? Il y a cette digitalisation un peu partout en Europe?
Alors, il faut savoir que la France est number one. La France est numéro un dans ce domaine-là. On est quand même le premier pays au monde. Alors, après les États-Unis en termes de camping et centres de vacances, mais quand même, c'est là où il y a le plus de camping, c'est en France, hein, dans le monde. Donc, on a une richesse avec des enseignes comme Yellow, comme Omer qu'on équipe, des nouvelles enseignes comme Camping Paradis, quoi, où il y a des missions, voilà, qui viennent de net, qui ont adopté nos solutions. Et je trouve que on a une richesse avec des 3, 4, voire 5 étoiles et des services qui sont vraiment aussi développés dans les centres de vacances, dans les campings, que dans des hôtels, dans des choses comme ça, quoi. C'est vraiment très riche, je trouve.
Eh bien, ça donne envie, finalement, de découvrir. Et ça fait plaisir, déjà, de se dire qu'on est number one, voilà, dans tout ce qui touche au tourisme connecté, et de voir, justement, toutes ces innovations qui nous attendent et qui, si j'ai bien compris, sont là pour nous faciliter la vie.
Tout à fait.
Ça, on est vraiment en vacances.
Ah oui, on est vraiment en vacances.
Merci beaucoup, Gérard Tremblay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Osmosis, et surtout l'Osmoké, que vous allez peut-être croiser pendant vos vacances, devant vos entrées de camping, d'hôtel. Voilà. Merci beaucoup, Gérard Tremblay. Et je vous souhaite un bon dimanche également.
Merci à vous aussi. Merci, au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et comme chaque semaine, on retrouve notre Thibaut sur le Camino, ce fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comment va notre French pèlerin?
Eh bien, le French pèlerin va très bien, Nathalie. Pour tout vous dire, je suis une petite peau dans le Gers. Le temps de laisser reposer mes pieds, car faire plus de 30 km par jour, ça devient un peu rude au bout de 3 semaines. Mais je voudrais en profiter pour revenir sur un moment du parcours que j'ai trouvé vraiment magique. C'est la traversée du plateau de la Margeride. Alors, peu de gens connaissent la Margeride, et pourtant, c'est une région magnifique qui mérite qu'on s'y arrête. Et pour vous situer, c'est au carrefour du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère. Et ce sont des paysages sauvages, presque lunaires, c'est très granitique, avec des narcisses et des genêts, vous imaginez?
Je vois très bien, je ferme les yeux, je suis avec vous là.
Voilà. Et en fait, on est en plein cœur de l'ancien Gévaudan.
Ah,
et qui dit Gévaudan dit
les gens
du Gévaudan.
Ah là là là. Et vous êtes intéressé à cette légende, j'imagine?
Bah oui, il faut surtout pas dire que c'est une légende, hein. Vous allez contrarier les habitants de la région, car il y a bien eu une bête, même si on ne sait pas très bien ce qu'elle était en réalité. Et en effet, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît très bien cette histoire, c'est Blandine, qui est guide au musée de la bête du Gévaudan dans le village de Saugues. Et vous allez voir, tout nous ramène à un certain Jean Chastel, un paysan de la région qui est présenté comme celui qui aurait tué la fameuse bête.
On écoute.
Alors il paraît qu'elle a été tuée près d'ici, c'est vrai?
Oui, à une quinzaine de kilomètres, là, dans la montagne.
Dans la montagne? Et dans quelles conditions? C'était quand?
C'était le 19 juin 1767. Jean Chastel a tué une bête.
D'accord, et on sait ce que c'était ?
Non, c'est toujours pas.
Et il n'y a aucune théorie, il n'y a aucune explication ?
Que des hypothèses, aucune confirmée.
Alors par exemple, les hypothèses, c'est quoi ?
Le diable, le loup-garou, l'animal hybride, Chastel qui aurait dressé une bête, plein d'hypothèses.
Plein d'hypothèses, donc le mystère reste entier ?
Totalement.
Alors là, je suis devant le musée, qui est à Seug, le musée de la bête du Gévaudan. Alors qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée ?
Alors, c'est représenté par des décors et des personnages en relief et un son et lumière.
Donc concrètement, on voit quoi ? C'est toute l'histoire ? C'est les hypothèses dont vous me parliez ?
Non, on est quand même parti de faits historiques. Que Chastel a tué une bête et que ça s'est arrêté.
Ça s'est arrêté ?
Ouais. Il n'y a plus eu de victimes.
Est-ce qu'il y a encore des personnes qui pensent croiser la bête du Gévaudan au hasard de la campagne ?
Non, quand même. Plus maintenant, depuis 250 ans.
Alors qu'est-ce qu'il faut voir d'autre dans la région de Seug ? Donc on est dans le Gévaudan et la Margerine. Alors quels sont les autres lieux d'intérêt ?
À Seug ?
Tout autour de Seug dans la région ?
Ben, vous avez la tour, vous avez la chapelle des pénitents, on a une lainerie, on a des moulins.
Il y a une tradition lainière ici ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Et qui fait vivre beaucoup de tisserands ?
Ah ben là ils sont en train de relancer l'affaire.
D'accord.
Oui. Il y a un projet qui pourrait être peut-être pas mal pour Seug.
Pas mal pour Seug, donc affaire à suivre. Et j'ai entendu parler aussi d'un festival celtique.
Il y a le festival celtique, oui, okay. En août, chaque année.
Donc il faut venir à Seug.
Ah, il faut venir à Seug.
On mange bien, on boit bien, qu'est-ce qu'on mange à Seug ?
Oh ben, c'est surtout la potée auvergnate, mais maintenant ils se mettent à faire un peu d'aligot.
D'accord.
Charcuterie.
L'Aubrac, c'est combien de kilomètres ?
C'est à une trentaine de kilomètres de Seug.
D'accord, parce que l'aligot, c'est plutôt l'Aubrac, c'est ça ?
C'est plutôt l'Aubrac, mais on commence à en faire pas mal chez nous.
Chez vous, d'accord. Écoutez, merci beaucoup Blandine.
Merci.
Merci infiniment.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bah du coup, on a très envie de découvrir cette région au cœur du Gévaudan. Vous repartez quand, vous d'ailleurs, Thibault ?
Bah demain, là. Je pense que je vais partir demain, direction les Landes et puis les Pyrénées. Et puis la fin du Camino français, ça s'approchera.
Donc à la semaine prochaine pour la prochaine aventure ?
Bah voilà, par exemple.
Merci Thibault, à très vite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Déjà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, un bon 15 août. Et pour ceux qui sont sur la route du retour des vacances, attention, bien évidemment. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Bon dimanche.